Je vous remercie beaucoup de ces mots d'introduction. Je vous remercie beaucoup d'assister à cette intervention qui sera un peu risquée de notre point de vue. Hein, donc, nous comptons beaucoup sur votre bienveillance, car comme si vous l'avez dit, la narratologie est une discipline relativement ancienne, ou une approche hein, relativement ancienne maintenant, et bien implantée. Les relations entre narratologie et féminisme sont beaucoup moins travaillées, en particulier en francophonie, où d'une part les études de genre sont peu représentées, alors en plus le lien avec la narratologie, c'est un domaine qui a été extrêmement peu étudié. Alors ça amène qu'on a travaillé avec un certain nombre de textes, avec un certain nombre de contributions qu'on a essayé de regarder d'un peu près, comme celle de Susan Lance, sur laquelle j'aurais envie de revenir. Vous avez une bibliographie dans l'exemplier que nous avons cité à circuler, une bibliographie des textes que nous allons travailler explicitement. Tous les textes qui traitent de la question féminisme et narratologie ne sont pas mentionnés dans cette bibliographie, simplement du fait qu'ils ne nous ont pas été accessibles, et ça en soi est révélateur. Hein. Les bibliothèques francophones, enfin suisses romandes en particulier, mais je pense que c'est aussi le cas pour parfois le monde francophone en général, certains textes qui existent aux États-Unis, au Canada, n'ont pas toujours été acquis par nos bibliothèque, simplement parce que les disciplines des études genre ne sont pas institutionnalisées de façon forte, hein, ni en Suisse, ni en France, et donc certains textes certes existent, mais n'ont pas été acquis au bon moment, ou ne sont pas en plusieurs exemplaires, etc. Donc il y a des textes qu'on aurait aimé aborder, qu'on n'a pas pu obtenir, et ce qui explique certaines peut-être lacunes de la bibliographie. Alors tout d'abord, un constat. Hein. Même si nous n'avons pas pu accéder, comme j'ai dit, à tous les textes que nous aurions souhaité, il nous faut reconnaître qu'il n'y a malgré tout pas beaucoup de travaux qui abordent conjointement et explicitement ces deux disciplines que sont la narratologie et les études féminisme ou les études de genre. Alors qu'entend-on d'abord, et j'aimerais préciser cela, par études genre ou formule que nous préférons, Mireille Noël et moi-même, études de genre, simplement pour des raisons stylistiques. Alors sans entrer dans les détails d'une problématique gigantesque, hein, d'un véritable continent théorique, nous nous contenterons de rappeler à grands traits les conceptions les plus partagées des concepts de sexe et de genre. Et là je fais référence à un article de Nicole Paul-Mathieu qui est apparu dans un dictionnaire récent, dont j'ai donné la référence dans la bibliographie, Dictionnaire critique du féminisme, qui est apparu en 2000 chez Buff. Alors, je lis rapidement, vous avez les citations sur votre exemplier. On oppose généralement le sexe comme ce qui relève du biologique et le genre, gender en anglais, comme ce qui relève du social. Les sociétés humaines, avec une remarquable monotonie, surdéterminent la différenciation biologique en assignant aux deux sexes des fonctions différentes, divisés, séparés et généralement hiérarchisés, dont le corps social en son entier. Elle leur applique une grammaire, un genre féminin est imposé culturellement à la femelle pour en faire une femme sociale et un genre masculin au mâle pour en faire un homme social. Donc la différenciation masculin-féminin est imposée à presque tous les secteurs de l'activité humaine, les secteurs matériels aussi bien que les secteurs symboliques, comme le soulignait d'ailleurs déjà dans les années 1970 Hélène Cixous, c'est votre deuxième citation. Toute la théorie de la culture, toute la théorie de la société, tout l'ensemble des systèmes symboliques, c'est-à-dire tout ce qui se dit, tout ce qui s'organise en tant que discours, l'art, la religion, la famille, le langage, tout ce qui nous prend, tout ce qui nous fait, tout est organisé à partir de positions hiérarchisées qui renvoient à l'opposition homme-femme, laquelle ne se soutient que d'une différence posée comme naturelle par le discours culturel. Le terme d'étude de genre peut être intéressant par rapport au terme d'étude féministe, dans la mesure où il met bien l'accent sur le credo majoritairement constructiviste qui anime la plupart des recherches de ce domaine, où il met en évidence le fait que la construction affecte, certes, les femmes, mais aussi les hommes. Toutefois, il présente également des inconvénients, notamment celui d'évacuer la dimension critique, voire politique, ce que regrette Nicole Claude-Mathieu, toujours dans le même article, et je la cite, « Parler de gender studies fait alors nettement moins trivial ou particulariste que women's studies ou gay and lesbian studies et semble plus tranquille ou objectif que feminist studies. » Ce qui permet de poursuivre des études sur les aspects symboliques et idéologiques du masculin et du féminin, sans référence à l'oppression du sexe féminin. La notion d'étude genre ou d'étude de genre risque donc de faire oublier ce qui n'est pas notre intention, si l'on y prend garde que les constructions sociales et culturelles, historiques, etc., de la masculinité et de la féminité ne sont pas symétriques, encore moins identiques. Il ne s'agit pas pour nous, par notre choix terminologique, d'occulter les relations de pouvoir et de domination, mais de mettre en évidence, d'une part, le caractère socialement construit des hommes et des femmes, et d'autre part, l'intérêt de travailler sans les amalgamer sur les deux types de construction. Cette petite précision étant effectuée, avant de nous intéresser de très près à l'intersection narratologie études de genre, qui nous le rappelons est peu fréquentée, il nous semble encore nécessaire de voir rapidement quelles ont été jusqu'ici les principales orientations de la réflexion en études de genre appliquées à la littérature. Et j'aborderai le deuxième point qui est la question du canon littéraire. Un des premiers pôles de réflexion développés par les études littéraires de genre concerne le canon littéraire, c'est-à-dire l'ensemble des textes considérés comme fondamentaux par l'institution littéraire, textes qui ont participé à la construction d'une tradition littéraire. Ces textes, dont l'excellence est sans cesse célébrée, sont enseignés dans le cursus scolaire et font l'objet de commentaires académiques qui en constituent les gardiens. Et pour ça, si vous avez intérêt à travailler un tout petit peu sur le canon littéraire, je vous renvoie à un article de Jean-Jacques Le Cercle qui est apparu dans Vox Poetica, dont vous avez ici un des animateurs du site. Alors, nombreuses sont les chercheuses à avoir fait remarquer dans un premier temps combien le canon littéraire avait été et continuait d'être fortement androcentrique. Par androcentrisme, nous faisons référence à un système qui met au centre l'homme, le mâle et tout ce qui a trait au masculin. Quand on évoque l'androcentrisme, on se réfère donc le plus souvent à l'adoption, à l'incorporation même d'un point de vue central qui place l'homme, le masculin, au cœur de nos hiérarchies et qui traverse les structures de façon plus ou moins évidente et subtile l'ensemble de nos discours et de nos pratiques matérielles et symboliques. Dans le discours scientifique traditionnel comme dans le discours littéraire, ce point de vue reflète la perspective privilégiée des hommes, même s'il faut nuancer quelque peu cette assertion dans la mesure où ce ne sont pas tous les hommes, mais surtout ceux qui sont placés dans le centre hégémonique de la vie sociale, qui ont détenu le pouvoir dans le monde de la connaissance et du savoir. Dans un deuxième temps, les chercheuses ont essayé de comprendre les modalités et les raisons de cet androcentrisme, de cette absence et ou de cette occultation des écrivaines. Dans un troisième temps, les critiques ont participé à la modification du canon, à son ouverture à des textes féminins. Les questions qui ont d'abord retenu l'attention de la critique littéraire sont donc les suivantes. Comment et pourquoi les textes écrits par des femmes ont-ils été si peu évoqués par la tradition littéraire? Comment et pourquoi ont-ils apparemment si peu marqué la tradition littéraire, qu'elle soit spécialisée ou profane? On notera que si les écrivaines sont présentes dans les anthologies, dans les anthologies, les cursus académiques ou les tables des matières de nos travaux de critique littéraire, elles ne sont pas plus nombreuses à se voir gratifiées de ces consécrations plus ou moins esthétiques, plus ou moins mercantiles, que sont les prix Goncourt et autres prix Nobel. Maintenant, je vais passer au point 2.1, qui est l'exclusion des femmes de certains genres. Il est un fait indéniable. Les écrivaines n'ont pas toujours été aussi nombreuses et aussi productives que leurs confrères. Pour des raisons socioculturelles, les femmes sont moins souvent, ou ont été moins souvent, les autrices d'une œuvre littéraire. En effet, elles ont souvent été interdites de littérature, ou du moins des pratiques littéraires les plus prestigieuses, celles-ci pouvant varier selon le contexte socio-historique. Les chercheuses féministes ont donc montré combien les femmes avaient vu leur accès à certaines pratiques discursives purement et simplement barrées au profit d'un confinement dans des pratiques considérées conjoncturellement comme mineures, à l'instar de la littérature pour enfants, de la littérature romanesque, de la littérature intime ou encore de la traduction littéraire. Malgré les interdits et les découragements qui frappaient les femmes, celles-ci se sont quand même adonnées à l'écriture. La réception de l'écriture féminine constitue alors le deuxième pôle volontiers investigué par la critique littéraire en études genre. Je vais passer maintenant au point suivant sur la dépréciation de la production féminine. Les féministes ont observé une certaine tendance récurrente à déprécier la production féminine. Cette dépréciation passe d'abord par le silence, par le non-dit, qui est opposé au texte féminin. Ainsi, de nombreuses études, parmi lesquelles on peut citer celle de Delphine Naudier, qui est une de vos des étudiantes, qui est issue de l'école des hautes études en sciences sociales, dans l'étude de 2003, où elle montre que les critiques, qu'ils soient hommes ou femmes, font preuve d'androcentrisme et privilégient la littérature d'origine masculine. Dans le contexte français, les critiques masculins peuvent aller jusqu'à consacrer 80% de leur production à leurs congénères, à des auteurs masculins. De même, les prix littéraires ignorent avec insistance la production féminine. Avec insistance, ça ne veut pas dire absolument. Il y a évidemment un certain nombre de prix qui sont décernés à des femmes. Cette vilaine propension s'accroît même lorsque les prix sont décernés par des jurys professionnels. Ces derniers se montrent en effet encore plus androcentrés que les jurys d'amateurs. Toujours dans la même ligne, il apparaît encore que plus le prix littéraire est prestigieux et lucratif, plus le nombre de femmes se réduit. La dépréciation n'est cependant pas toujours implicite et silencieuse. Elle peut s'exprimer de façon brutale, par des commentaires, sans appel, comme ceux analysés par le travail fondateur en France de Christine Planté. Mais elle peut se faire plus perverse, comme l'a montré Rachel Sauvé dans sa passionnante analyse sur les autrices et leurs préfaciers au XIXe siècle, qu'elle a intitulée « De l'éloge à l'exclusion », qui a paru en 2000 et que vous trouvez également dans la bibliographie. À titre d'exemple du double discours qui traverse de nombreuses préfaces, je mentionnerai les formules récurrentes et contradictoires qu'elle analyse, du type « petit chef-d'œuvre ». L'auteur semble s'être surpassé dans ce petit chef-d'œuvre, ce que vous avez sous le point 4, ou encore « tout gracieux petit volume ». Dans tous ces cas, on notera une minimisation du compliment qui aboutit à semer le doute sur la sincérité de son énonciateur et qui met en évidence la dimension convenue et donc tendanciellement hypocrite de la préface louangeuse. Hormis ces oxymores douteuses, on peut aussi noter des cas de dénégation, comme dans l'exemple que vous avez sous le numéro 5 et que j'emprunte à Christine Planté. Le génie de Madame de Sévigné a donc ses limites. C'est d'un mot, et à condition qu'on n'attache à ce mot aucune idée péjorative, belle de condamnation, le génie du bavardage. Donc il n'est pas rare de voir la production féminine critiquée, mais aussi, je l'ai dit, tout simplement ignorée, occultée par la réception critique contemporaine. Cette occultation est parfois également imputable au discours académique ultérieur. Pour illustrer ce phénomène, j'aimerais évoquer deux exemples. Un exemple anglophone et un autre francophone. Le premier cas d'occultation massive de la production féminine a été traité par une américaine, Dave Spender, dans un article intitulé « Women and Literary History ». Anglaise ou américaine ?
Australienne.
Australienne, merci. Publié en 1989 et qui a eu un certain retentissement. Dave Spender a montré qu'au XVIIIe siècle, c'était surtout les femmes qui étaient considérées comme d'excellentes romancières, préjugé qui a contraint certains hommes, d'une part à s'inspirer des pratiques féminines et d'autre part à masquer leur identité sexuelle pour améliorer leurs chances de reconnaissance publique. Ce fait a pourtant par la suite été complètement occulté et la critique littéraire institutionnelle de Ian Watt à Walter Allen a défendu l'idée que le roman anglais avait été inventé par Daniel Defoe et subi un nouvel essor avec Samuel Richardson. Dave Spender évoque cette réécriture de l'histoire littéraire en termes extrêmement sévères de « falsified version » ou « biased version », terme donc extrêmement sévère. Pour spectaculaire qu'il soit, il ne s'agit pas là d'un cas de figure isolé. Le deuxième exemple que j'aimerais soumettre à votre sagacité est plus récent. Il est emprunté à notre contexte immédiat. On pourrait se demander, en effet, si un phénomène quelque peu comparable n'est pas en train de se produire en francophonie avec la littérature intime. Arrêtons-nous donc quelques instants sur l'introduction d'un ouvrage cette fois-ci très récent qui date de 2003, introduction qui nous paraît assez emblématique d'une pratique critique en train de devenir courante. Donc j'emprunte c'est l'extrait d'un livre de Sébastien Hubier, paru en 2003 et qui s'intitule « Littératures intimes, les expressions du moi, de l'autobiographie à l'autofiction ». Voici sous la citation 6, voici ce qu'on peut lire. Donc c'est un extrait de son introduction. La fortune, et j'ai souligné quelques points qui me semblent intéressants. La fortune actuelle de la littérature personnelle, auprès du public comme dans les programmes scolaires et universitaires, semble à l'origine d'un intérêt accru et renouvelé de la part de la critique pour des formes d'écriture dont Philippe le Jeune notait encore en 1975 combien elle tardait à être reconnue comme un genre littéraire à part entière. Les ouvrages consacrés respectivement à l'autobiographie, aux mémoires, au journal intime, au roman épistolaire, au roman autobiographique, aux chroniques, aux récits de voyage ou encore à l'autofiction abondent. Mais toutes ces écritures intimes y sont le plus souvent abordées isolément en vue de saisir la spécificité de chacune d'elles. Celles-ci s'incarnent dans un très grand nombre de catégories génériques, en prose et en vers, dans la fiction et dans les textes strictement référentiels, dans le roman, dans la poésie, et au sein de cette dernière, par exemple, aussi bien dans l'épopée que dans l'élégie. En outre, l'usage même de la première personne varie indéniablement selon les cultures et les époques. Le « je » n'a pas une valeur identique et ne renvoie pas de la même façon à la réalité pour un Tibulle, un Properce ou un Ovide, pour un poète de la période baroque, pour un Lamartine, un Rimbaud, que j'aurais pu aussi souligner, hein, ou un Lautréamont, un André Breton, un Paul Auster. L'auteur de ces propos, notons-le, d'une part insiste sur le fait que la littérature de l'intime est devenue une pratique littéraire acceptée, institutionnalisée, hein, et que ce genre, après avoir subi l'ignorance et le discrédit, se voit heureusement enfin reconnu comme un genre majeur. Cette reconnaissance semble cependant aller de pair avec la disparition des femmes, pourtant longtemps confinées dans ce type de pratique, comme l'avait montré Béatrice Didier dans son livre « L'écriture femme ». Dans ces lignes décisives que sont l'introduction, on notera qu'aucune femme n'est évoquée par Sébastien Hubier. Alors même que celui-ci insiste sur la diversité des pratiques et qu'il enjoint même à la critique de ne pas les occulter. Notre auteur consacrera cependant, rassurons-nous, quelques maigres lignes aux femmes qui, du temps de l'indignité de la littérature intime, occupaient l'essentiel du champ dans l'imaginaire et la pratique critique. Nous n'avons pas là affaire à nouveau à un traitement singulier, émanant d'un auteur extravagant. Georges Gusdorf, autre spécialiste de l'intimité littéraire, ne se distingue pas significativement sur ce point de son successeur. On notera par exemple les propos suivants dans la quatrième de couverture de Ligne de vie, péritexte dont l'importance n'est plus à démontrer et qui est souvent le fait des auteurs eux-mêmes. Dans la quatrième de couverture, le texte est décrit comme, je cite, vous ne l'avez pas sur votre exemplier, cette petite citation, « la somme inégalée de l'histoire de l'autobiographie et un texte philosophique original ». L'auteur est même présenté sous les traits, et c'est ce que vous avez en 7, sous les traits d'un explorateur infatigable des littératures européennes, qui épouse la pulsation secrète des écrits de tant d'écrivains majeurs, depuis Montaigne jusqu'à Kafka ou Joyce. La somme inégalée d'un explorateur infatigable qui traite de la question sur près de 1000 pages semble avoir calé ou reculé devant la littérature féminine puisque celle-ci ne remplit guère plus d'une petite dizaine de pages, faisant d'ailleurs la part belle aux religieuses. Et on vous a mis en 8, nous vous avons mis en 8 avec Mireille Noël les noms qui figurent qui sont marqués de façon forte dans la table des matières. Donc le nom des femmes. Le silence opposé à tant d'œuvres féminines ne peut que nous surprendre de la part d'un chercheur qui ne manque pas d'interpeller l'amnésie d'un de ses illustres prédécesseurs, Philippe le Jeune. En effet, il écrivait, et j'ai mis la citation sous le point 9, « Les écrits de Philippe le Jeune proposent un cas remarquable d'amnésie de l'inventeur. » L'amnésie évoquée ici par Gusdorf n'a pas attrait aux femmes, n'a pas trait aux femmes, mais aux hommes des siècles précédant l'écriture des mémoires de Jean-Jacques Rousseau, qui n'ont pas été pris en considération par le Jeune. Quelques hommes vous manquent, et il semble que la littérature est dépeuplée, la démonstration anéantie, si l'on en croit Gusdorf. Mais les femmes manquent, et le canon n'est pas du tout interpellé. L'amnésie androcentrique, décrite et analysée depuis tant d'années par les études de genre en littérature, affecte donc toujours et encore de très nombreux auteurs. Dernier exemple que je prendrai dans ce domaine, celui de Jacques Le Carme et Eliane Le Carme Tabone, qui dans leur ouvrage de référence intitulé « L'autobiographie » et qui avait paru chez Armand Collin en 1997, ces auteurs semblent également à première vue échapper aux foudres féministes, car ils consacrent un chapitre de 25 pages, certes sur un total de 315 pages, à l'autobiographie des femmes. Mais à seconde vue, le caractère malgré tout androcentré de leur pratique se laisse percevoir. En effet, la présence de ce chapitre témoigne a contrario du caractère masculin du prototype intime, dont on n'a même pas à spécifier la masculinité, celle-ci se confondant avec l'universel. L'autobiographie des hommes est donc donnée de façon implicite comme la norme absolue, sans que cette prééminence fasse l'objet d'une justification ou d'une discussion. L'autobiographie féminine, elle, ne constitue pas une catégorie de plein droit, mais alors une sous-catégorie. On retrouve à l'œuvre, dans la pratique littéraire, une conception qui fait de l'homme le référent universel et de la femme un élément spécifique qui ne se définit que dans sa relation, voire sa différence avec l'homme. Et on aurait cette opposition que vous avez évoquée tout à l'heure en disant il y a les écritures neutres et les écritures féminines. Le caractère sexué et androcentré de la critique littéraire, mais bien au-delà de la réflexion scientifique dans son ensemble, a fait l'objet de nombreux travaux féministes. Je ne mentionnerai pas le travail de Michèle Ledeuf qui est ici, qui peut le présenter beaucoup mieux évidemment elle-même. Ici, je ferai référence notamment au travail de Nicole Claude Mathieu, qui était l'une des pionnières de ce type de réflexion et qui a souligné la tendance commune. Et là, je prends un extrait qui est cité par Michard et Ribéry, sous 10. On croit parler en général, alors qu'en réalité, on parle au masculin. Idée qui avait aussi été développée auparavant par Leclerc, et les autrices ont été des précurseuses dans cette acuité d'analyse, où elle disait « qui parle ici, qui a jamais parlé, assourdissant tumulte des grandes voix, pas une n'est de femme ». On ne saurait cependant passer sous silence que ce type de pratique que l'on a observé dans les travaux qui traitent des littératures intimes, du quasi tout masculin, côtoie d'autres pratiques beaucoup plus rares du tout féminin. C'est ainsi notamment que les auteurs de la préface d'un ouvrage collectif rassemblant des récits de mesdames Riccoboni, de Charrière et de Duras au XIXe siècle proposaient un autre canon littéraire. Et je lis sous 12. Sous Louis XIII, voilà ce que disaient les auteurs dans la préface citée par Sauvé. Sous Louis XIII, c'est Madame de Scudéry. Sous Louis XIV, c'est Madame de Lafayette. C'est Madame de Tencin sous le Régent. Madame Riccoboni sous Louis XV. Vient ensuite l'auteur de Corinne et Delphine, puis Madame Cottin, l'enchanteresse qui a fait couler tant de douces larmes. Un tel contre-discours du tout féminin est cependant d'une grande rareté, comme le signale Rachel Sauvé. Et je lis en 13. Un exemple comme celui-là montre qu'un préfacier peut très bien, sans trop de scrupules, réviser l'histoire, compte tenu que ce texte date de 1853 et que n'y figure aucun homme, ni Urfé, ni Voltaire, ni Balzac. Ici, la Valérie de Krutener est un chef-d'œuvre et la case de l'oncle Tom est le plus grand et l'un des plus légitimes succès de ces dernières années. Pour un exemple comme celui-là, et ils sont rares, on en trouve beaucoup qui font la démarche inverse, c'est-à-dire qu'ils omettent de nommer les femmes ayant contribué à la littérature. Ajoutons encore qu'un tel choix éditorial, tout à fait typique, qui se consiste donc à ne pas mentionner les hommes, tout à fait atypique, qui consiste à ne pas mentionner les hommes pour intéressant qu'il soit, ne saurait être conçu comme une pratique analogue à celle du canon littéraire traditionnel. En effet, il n'y a pas de symétrie entre les deux pratiques. D'un côté, la pratique d'exclusion de la littérature masculine est consciente, réactive, voire provocante, et de l'autre, la pratique d'exclusion de la littérature féminine est inconsciente, naturelle et donc invisible. Elle est « gender blind ». Le canon littéraire traditionnel n'a en effet le plus souvent pas conscience de ses effets de genre. Et je passerai au point 2.4. Malgré toutes ces embûches et ces aveuglements, il arrive que certaines œuvres féminines parviennent au panthéon littéraire, qu'elles soient reconnues comme dignes du canon, comme répondant à tous les critères androcentristes. Toutefois, leur place dans ce panthéon ne cesse d'être discutée. Et c'est ce que souligne Sauvé en 14. En effet, au XIXe siècle, on n'aura pas empêché les femmes d'écrire et de publier, mais on aura soutenu tout au long du siècle que les femmes ne sont pas à leur place dans la littérature. Le caractère déplacé des autrices n'est pas sans entraîner quelques effets collatéraux, à savoir la mise en question du caractère véritablement, authentiquement féminin de leur personne. Tout se passe alors comme si la reconnaissance de l'œuvre ne pouvait se faire qu'au prix d'un refus de la reconnaissance de l'autrice. On assiste à une forme de mort symbolique de l'autrice. Cela a été le cas notamment de George Sand, dont on a questionné l'adéquation entre son genre et son sexe. Et je cite un commentaire de Sauvé, en 15. « Quant au cas de Sand, qui paraît exceptionnel, il confirme en fait nos conclusions. C'est sa persona masculine, on dirait maintenant son genre plutôt, qui a fait entrer Sand dans l'institution. Ceux de ses textes qui présentaient des revendications féminines ont été occultés et les textes canoniques de Sand demeurent ceux dont le récit est ostensiblement encadré par un narrateur masculin. » Non seulement on met en question le genre féminin de Sand, mais on ne reconnaît comme littéraire que les textes qui véhiculent un point de vue masculin. Cette idée développée ici par Sauvé avait été également argumentée par Christine Plontin, et je vais donner un extrait en 17. Christine Plontin, oui. Pour beaucoup, quand les femmes écrivent, ce n'est pas de l'art ou ce ne sont pas des femmes. Les deux arguments peuvent d'ailleurs, pour plus de sûreté, s'invoquer simultanément. L'incompatibilité entre le sexe féminin et la pratique artistique a fait l'objet de nombreux discours misogynes. Parmi ceux-ci, je rappellerai les explications d'Émile Deschamps sur l'absence d'alternant féminin dans la langue française pour désigner un certain nombre d'activités comme écrivaine, autrice, sculptrice, poétesse, etc. Et je cite ces morceaux d'anthologie misogyne. C'est un fait exprès de la en 18 et 19. C'est un fait exprès de la grammaire française la plus judicieuse, la plus intellectuelle, la plus philosophique des grammaires. Elle n'a pas voulu consacrer d'expression pour rendre ce qui lui paraît contraire aux lois d'organisation humaine. Encore plus loin, voyez comme les mots de chanteuse, cantatrice, danseuse, tragédienne, comédienne, actrice, etc., etc., se pressent dans le vocabulaire. Notre langue est toujours raisonnable et logique. Donc il n'y a pas de sculptrice, mais il y a des comédiennes. Pour Deschamps, la légitimité du discours patriarcal, inscrite dans le génie même de la langue, ne fait aucun doute. Ce débat sur la féminisation des professions et par-delà sur la féminisation des noms de professions est un débat, comme on peut le constater, qui ne date pas du gouvernement Fabius, loin s'en faut. La langue ne ferait donc que parachever l'exclusion idéologique des femmes. Il est encore un point que l'on pourrait mentionner et qui nous est suggéré par les propos que Rachel Sauvier tient sur la réception de Sand et que je rappelle. C'était sous le point 15. Ceux de ces textes qui présentaient, que je vous ai remis en 20, ceux de ces textes qui présentaient des revendications féminines ont été occultés et les textes canoniques de Sand demeurent ceux dont le récit est sensiblement encadré par un narrateur masculin. Donc il semblerait donc que l'occultation des autrices soit d'autant plus grande lorsque ces dernières assument un point de vue féminin. La question du canon. Je passe au point 3. La question du canon a occupé et continue d'occuper une partie importante de la critique littéraire de genre qui, d'une part, s'attache à montrer les particularités du corpus institutionnel de texte et ses particularités, ses biais, etc., et d'autre part, ses vertus de le renouveler en exhumant des autrices longtemps ignorées. Le discours ne s'épuise toutefois pas dans la sociologie de la culture et du texte littéraire. Il ne s'est pas limité à traiter des conditions socioculturelles de production du discours littéraire, mais a également abordé le texte lui-même sous des angles que nous nous contenterons d'évoquer rapidement avec Catherine Belsier et Jane Moore. C'est sous 21, c'est un petit résumé succinct, « The feminist reader might ask, among other questions, how the text represents women, what it says about gender relations, how it defines sexual difference. » Comment représentons les femmes dans les textes littéraires? Comment les autrices s'expriment-elles? Ont-elles des thématiques ou des modes d'expression différents? Voici quelques-unes des questions qui sont également abordées par les études littéraires de genre. Sans entrer dans les détails, on observera qu'à côté d'une critique qui nie toute différence, se trouvent deux autres orientations critiques. La première affirme des différences et les stigmatise. Et c'est à nouveau un exemple emprunté à Plantet. Cité par Planté, le roman romanesque est un genre bien féminin, tissé d'imaginaire et de réel, il répond à la tournure d'esprit des femmes qui en sont les plus fidèles lectrices. C'est de plus, et comme la correspondance, un genre qu'aucune règle n'entrave. L'inspiration, il peut déployer sa fantaisie, le sentiment le plus tyrannique, il trouve un exutoire. Stigmatisation ici implicite. La seconde posture consiste à reconnaître les différences, mais à retourner le stigmate. Et c'est ce qu'on a en 23. Les autobiographies, qui est un extrait de Le Carme et Le Carme Tabonne. Les autobiographies de femmes se révèlent soucieuses de dire la spécificité du corps féminin. Toutes les femmes mentionnent les aventures spécifiques de leur corps. L'arrivée des règles et des transformations de la puberté constitue un développement obligé de l'autobiographie féminine. La grossesse et la maternité inspirent à George Sand, qui l'évite avec bonheur, des analyses subtiles. Cette dernière position a été particulièrement développée dans les années 70 par des autrices comme Hélène Cixous ou Annie Leclerc. On retrouve dans la création comme dans la critique littéraire, dans le champ artistique comme dans le champ politique, les trois postures de base du féminisme, à savoir une posture essentialiste, une posture universaliste et une posture différentialiste. Tout simplement pour rappel, hein, par posture universaliste, on voit l'idée qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes. La posture différentialiste accepte des différences, mais les interprète sur un mode socio-historique. Hein, on donne une explication contingente. Et enfin, la posture essentialiste interprète sur un mode biologisant différences. Alors, sur le plan de l'expression, certaines caractéristiques ont été évoquées par les littéraires comme par les linguistes. Et je les cite rapidement, la fragmentation du propos, l'absence de linéarité, les modélisations plus nombreuses, les précisions, les litotes, les périphrases, les euphémismes, etc. Nous ne voulons pas nous attarder sur ces aspects, mais j'aimerais revenir à la question du canon littéraire dans une perspective cette fois narratologique. Alors, au vu de tout ce que nous avons dit, il apparaît que la critique institutionnelle joue ou peut jouer un rôle extrêmement important dans la visibilisation ou l'invisibilisation d'une partie parfois non négligeable de la production littéraire. Quelle est donc la situation en France, en particulier en francophonie en général, notamment à partir des années structuralistes ou narratologiques? Quelle a été la pratique et donc la position des narratologues à l'égard de la production littéraire féminine et de la réflexion générique qui s'est développée dans les mêmes années? La question n'est pas impertinente, puisque les narratologues eux-mêmes ont revendiqué comme acquis fort de la narratologie une mise en question du canon classique et une ouverture à tout le champ littéraire, voire à tout le champ symbolique. Et là, je mets en 25 une citation de Gerald Prince qui va dans ce sens. « It has helped to put into question the very nature of the canon by showing that many non-canonical narratives are just as sophisticated, narratively speaking, as canonical ones. » C'est-à-dire que la narratologie a aidé à mettre en question la nature du canon en montrant que les récits non canoniques étaient tout aussi sophistiqués, tout aussi intéressants d'un point de vue narratologique que les textes canoniques. Et pour Jerry Prince, dans cet article qui remet en question certains choix et certaines postures narratologiques, il dit qu'il y a là un acquis indéniable. La narratologie a remis en question le canon littéraire. Ce point de vue, soutenu donc par un des ténors de la narratologie dans le monde anglo-saxon, a été largement prévalent dans le monde francophone aussi. Juste à ce propos, on notera un tout petit aparté. J'aimerais signaler que Gerald Prince a publié en 2002 un guide du roman de langue française 1901-1950 et que dans ce guide de lecture, il est dit qu'il ne se fonde pas sur le canon littéraire, mais qu'il prend d'autres axes de sélection, qui sont les prix reçus et l'importance du tirage. J'ai quelques doutes, j'ai pas eu accès directement à ce texte-là. Il y a fort à parier que ça ne va pas changer radicalement le rapport quantitatif entre les hommes et les femmes. Donc, cette idée que la narratologie a remis en question le canon littéraire a été en partie partagée dans le champ français et notamment en étant mise en question. C'est ainsi qu'en 1987, Alain Finkielkraut a reproché à la narratologie d'accorder trop d'exemples, trop d'intérêt, trop de crédit à la paralittérature, d'avoir trop ouvert le canon littéraire. Il était reproché aux structuralistes de mettre sur le même plan la chanson populaire, les slogans publicitaires, la poésie classique, etc., dans un texte que vous connaissiez bien, La défaite de la pensée. La question qui se pose alors est la suivante. Les narratologues et autres structuralistes qui ont été si curieux de la diversité culturelle, se sont-ils intéressés à la production féminine? Pour répondre à cette question, il serait intéressant d'aller voir systématiquement du côté de Brémond, Deco, Gréma, Genette, Thorodorov, Barthes ou Adam, par exemple, pour ne citer que ceux-ci, et voir quelles sont les références, quels sont les textes qu'ils ont analysés. Or, on observe que les textes de tous ces chercheurs comportent fort peu de références au discours féminin, et encore moins à la critique féministe. Les narratologues ont opéré de façon le plus souvent aveugle une espèce d'androcentrisme ordinaire, comme en témoigne un simple fragment plus récent que j'emprunte à Yves Reuter, et qui dit en 26 « Ainsi, un écrivain masculin du XXe siècle peut narrer des histoires en prenant l'identité d'un homme du XXIe siècle, d'une femme, d'un animal, d'un mutant. » Là, on observe bien qu'il adopte un point de vue complètement androcentriste. Il parle du narrateur, des rapports entre narrateur et auteur, et quand il doit donner des exemples de narrateurs, c'est tout d'abord un narrateur homme, un écrivain masculin, puis un narrateur, et il prend d'abord l'identité d'un homme du XXIe siècle, puis autre identité autrement plus troublante, celle d'une femme, d'un animal, d'un mutant. De telles pratiques, qui sont gender blind, de nouveau, qui sont androcentrées mais aveugles sur leur androcentrisme, ont été mises en question dans le cadre du discours anthropologique par Claire Marshall et Claudine Ribéry à travers une analyse énonciative minutieuse. Rappelons-nous à ce propos cet énoncé de Claude Lévi-Strauss donné comme emblématique, également cité par Michel Ledeuf, que je vous lis en 27. « Le village entier partit le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissons seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons abandonnées. » Le village entier, sauf les femmes et les enfants. Cet énoncé, souvent cité, ne constitue pas un détail, comme le montrera par la suite les prises de position médiatiques, notamment, particulièrement virulentes, d'un des pères de l'anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss, via son confrère Georges Dumézil, sur la question de la féminisation des noms de profession. Et Claire Marshall et Claudine Ribéry, bien avant ce débat médiatique, disaient, et c'est sous avant 28, « En effet, dès qu'il s'agit de sexe, on peut remarquer dans toutes les disciplines l'aveuglement idéologique le plus complet d'esprits qui peuvent être fort rigoureux par ailleurs. » Je pense que ça s'adapte particulièrement bien à ces deux auteurs. Ou encore, « Les discours scientifiques ne font que reprendre à leur compte les représentations idéologiques les plus sexistes et ainsi contribuent pour une bonne part à leur reproduction. » Ou encore, « Nous avons étudié comment les individus d'un groupe sexué construisent ce groupe auquel ils appartiennent par opposition à l'autre groupe sexué. » Et nous constatons que, comme pour les classes traditionnelles, les discours construisent un des groupes sexués, et c'est ce qu'on voit chez Reuter, je pense que, comme norme, repère par rapport auquel l'autre groupe sexué se différencie. À l'instar des autres discours scientifiques, le discours narratologique ne saurait être neutre. Il obéit aux mêmes caractéristiques. Et j'aimerais citer ici un texte d'Ilana Levy, aussi que vous connaissez bien, puisqu'elle travaille dans cette maison, sauf erreur, et qui dit « Les recherches dans ce domaine, donc l'épistémologie et les rapports entre sciences et genre, postulent que les définitions en vigueur de neutralité, objectivité, rationalité et universalité de la science incorporent en fait souvent la vision du monde des individus qui ont créé cette science, des hommes, mâles, occidentaux, membres des classes dominantes. » Et je pense que cette remarque, qualifie aussi bien le discours narratologique que tant d'autres discours scientifiques. Encore, étant donné l'importance fondamentale de cette division, homme-femme, dans toutes les sociétés humaines et son incorporation dans la culture et le langage, on peut raisonnablement, et j'aimerais souligner cet article, on peut raisonnablement penser qu'elle a influencé l'organisation des connaissances du monde naturel et favorisé le développement de visions dichotomiques et hiérarchisées qui sont représentées comme correspondantes à la véritable structure du monde. Il ne s'agit pas nécessairement de renoncer aux objectifs d'universalité ou d'objectivité postulés jusqu'ici par la plupart des discours scientifiques, mais de reconnaître que l'on ne peut tendre à un tel objectif tant que l'on n'a pas conscience de ce que d'aucuns appellent des lunettes androcentriques notamment, qui peuvent introduire des biais, ou plutôt, et c'est un terme que je préférerais, des connaissances situées, pour reprendre un concept de Donna Haraway dans un texte qui date de 1988. Les connaissances situées intègrent, visibilisent le cadre temporel, géographique, sociale et sexuelle de leur production. Les lunettes en droit centrique ne doivent alors pas nécessairement être abandonnées, mais conscientisées pour évaluer les effets qu'elles produisent, effets qui peuvent, pourquoi pas, même s'avérer productifs. Et c'est ce que propose de faire Michard et Ribéry dans la citation que je vous donne en 33. Une analyse concrète et systématique du discours scientifique en référence à ce phénomène, la centration des discours sur le sujet homme, apporterait une contribution utile à la critique de la connaissance et à la connaissance elle-même. Cette analyse n'a pas été faite et nous voudrions citer seulement quelques exemples à titre indicatif. L'analyse pourrait être pratiquée dans deux optiques complémentaires, l'analyse des distorsions au niveau de la conceptualisation des problèmes d'une part, au niveau du langage d'autre part. Et je pense que ce programme, hein, extrêmement résumé ici, extrêmement succinct, est toujours aussi valable et mérite d'être fait sur le discours narratologique. Une telle enquête, déjà bien entamée pour des domaines aussi divers que la médecine, la biologie ou l'anthropologie, ou la philosophie, reste encore largement embryonnaire pour le champ narratologique. Alors, après avoir mené un premier bout d'enquête à partir du féminisme sur la narratologie, nous aimerions maintenant poursuivre la réflexion en nous demandant plus précisément encore si l'on peut aborder la littérature d'un point de vue féministe et d'un point de vue narratologique simultanément. C'est donc à cette question que nous allons maintenant essayer de donner encore quelques éléments de réponse. Alors, et là j'en suis au point 5, un féminisme antistructuraliste ou une narratologie antiféministe ? Si ce n'est lors de la querelle sur la féminisation des noms de professions, titres et fonctions, les relations entre la perspective structuraliste et la perspective féministe n'a pas fait l'objet de nombreux débats publics dans le monde francophone. Les narratologues de leur côté semblent avoir observé pour la plupart un silence discret. Pour ce qui est des féministes, elles n'ont pas plus fait un thème vraiment saillant, à quelques exceptions près, qui se situent surtout dans le monde nord-américain et australien. Et parmi ces exceptions se trouve Susan Lancer, professeure en études littéraires de genre à l'université de Brandeis aux États-Unis. Dans son livre consacré au point de vue, daté de 1981, Susan Lancer décrit sa position en ces termes. Est-ce que vous avez en 34? Je vous lis, je vous propose de donner une traduction directement en français. Ma formation relève pour l'essentiel des approches formalistes, et ma visée est profondément féministe. Il s'agit là d'un alliage inconfortable qui m'a conduite au-delà du formalisme traditionnel, sans pour autant m'amener à renoncer à prendre en compte la perspective formaliste. Nombreux sont les critiques qui ont été frappées par cet énoncé, tant il paraissait soit incongru, soit prometteur. Par la suite, Lancer a essayé d'expliciter les tensions entre ces deux perspectives. Et je lis à nouveau. C'est ce que vous avez en 35, mais je vous lis une traduction en français. Une narratologie à destination de la critique féministe ou pour la critique féministe aurait pour tâche de réconcilier les conceptions narratologiques fondamentales avec les conceptions féministes qui appréhendent le récit dans une perspective mimétique référentielle. Traditionnellement, on considère que la narratologie a évacué les aspects référentiels de la fiction et mis l'accent sur la dimension sémiotique, alors que la critique féministe a fait l'inverse. Les critiques féministes tentent à être plus intéressées par les personnages que par tout autre élément du dispositif narratif et à considérer les personnages comme de véritables personnes. La plupart des narratologues, en revanche, abordent les personnages comme s'ils n'étaient que des schémas récurrents, des motifs constamment réactualisés dans d'autres motifs. Cette conception pourrait sembler menacer un des présupposés essentiels de la critique, tout particulièrement de la critique. À savoir les textes narratifs et tout particulièrement les textes romanesques sont profondément, ce qui ne veut pas dire simplement, référentiels et jouent un rôle très influent à l'égard des représentations des relations de genre. Le défi lancé aussi bien au féminisme qu'à la narratologie est de reconnaître et d'articuler ces deux dimensions, sémiotique et référentielle, du récit. On pourrait synthétiser de la façon suivante, et c'est ce que j'ai mis en 36, de façon assez grossière, les lignes de position qui séparent le discours féministe du discours narratologique. À gauche, j'avais discours féministe avec ses axes, lecture référentielle, importance du personnage, présence de l'auteur, concepts multiples qui apparaissent pas dans cette citation de Lanser, mais qui sont souvent évoqués dans les textes féministes qui critiquent la narratologie, et perspective contextuelle, ouverture du texte. La perspective contextuelle étant fondamentale. Du côté du discours narratologique, on aurait une lecture plutôt sémiotique, l'importance des schémas récurrents, le personnage vu, considéré comme un schéma récurrent, comme une simple fonction textuelle aussi, la mort de l'auteur, M. Pierce l'a évoqué tout à l'heure, ici j'ai mis absence de l'auteur, concept binaire, là aussi la binarité a été mise en question par certains textes féministes, clôture du texte, perspective immanente. Du reste, la notion maintenant qui apparaît dans le discours narratologique féministe dans le monde anglo-saxon, c'est contextualizing feminist narratology, une narratologie féministe contextualisante. Et c'est le terme qu'on retrouve actuellement le plus fréquemment. Ces critiques n'ont pas seulement été le fait des féministes. Nombreux sont celles et ceux qui ont mis en question de telles conceptions, à commencer par les narratologues eux-mêmes, par la narratologie vieillissante, à l'instar de Gerald Prince. Et c'est ce que vous avez de nouveau sous 37, où il est dit « La narratologie néglige le contexte dans lequel les récits sont produits, la situation qui détermine du moins en partie leur forme, les facteurs pragmatiques qui régissent en partie leur fonctionnement. » Donc c'est une critique féministe qui a été portée très tôt par les féministes, mais qui a été relayée par la suite par le discours narratologique lui-même, cette absence de contextualisation de la lecture narratologique. Les oppositions mentionnées par Susan Lanser sont évoquées dans d'autres réflexions féministes. Nous en mentionnerons encore deux, relativement récente, que nous empruntons à ces figures emblématiques de l'analyse littéraire de genre, de l'analyse littéraire thématique, si vous voulez, de genre, que sont Sandra Gilbert et Susan Gubar pour les États-Unis et Janet Todd pour l'Angleterre. Le premier commentaire que vous avez en 38 est donc extrait de l'introduction remaniée de la Bible, si vous me pardonnez cette expression, des études féministes anglo-saxonnes, à savoir le texte fondateur « The Mad Woman in the Attic » que l'on doit aux deux états-uniennes, Sandra McGilbert et Susan Gubar. Dans leur introduction dialoguée, et ce serait intéressant de réfléchir aussi sur la forme d'introduction que j'ai choisie, sous forme de dialogue, dans leur introduction dialoguée qui date de 2000, dans laquelle elles exposent les conditions souvent difficiles de production de leurs réflexions, on peut lire qu'elles ont fait l'objet de nombreuses critiques, et notamment de la part des structuralistes. On leur a reproché, et vous avez en 38, on leur a reproché leur incroyable, je ne sais pas comment vous traduire à Evil Faith. Moi j'ai mis incroyable ou. Je trouve un peu curieux, mais je dirais leur incroyable attachement au concept nostalgique et politiquement rétrograde d'auteur. Auteur conçu non pas comme un simple phénomène linguistique, mais comme un être vivant. Leur texte a été beaucoup discuté au moment de sa sortie. Je vous rappelle qu'il date des années... La première version date de 1979. On était aussi en pleine vague structuraliste. Elles avaient une approche thématique qui accordait une force, un poids important à l'auteur. Et donc, elles ont été sévèrement critiquées par les structuralistes qui leur ont reproché, je rappelle, leur incroyable attachement au concept nostalgique et politiquement rétrograde d'auteur. Un peu plus loin, dans l'introduction, Sandra Gilbert semble se demander si les théories structuralistes et postmodernes, qui comportent selon elle une dimension scientiste, ne révèlent pas une volonté d'entrer en compétition avec les sciences dites dures, essentiellement masculines, dans la mesure où celles-ci bénéficient, à l'époque et toujours, d'une forte reconnaissance sociale. La technicité, selon elle, de la narratologie, notamment, révélerait donc un imaginaire scientifique et masculin difficilement intégrable dans les conditions socioculturelles qui sont les nôtres par le discours critique féministe. Plus près de nous, Janet Todd, spécialiste de l'analyse littéraire de genre, auteur notamment en 1985 du dictionnaire des écrivaines anglaises et américaines, évoque au cours d'un entretien à paraître dans Nouvelles questions féministes un certain nombre de points qui ont rendu difficile, voire impossible, le dialogue féminisme et narratologie ou études de genre et narratologie. Et c'est ce que vous avez en front neuf, donc c'est un entretien qui va paraître, dont j'ai extrait quelques morceaux. La mort de l'auteur a été une notion sophistiquée et utile à opposer à la critique historique et biographique qui mettait trop l'accent sur la connaissance contextuelle. Malgré son étayage théorique complexe, ses effets sur le terrain ont souvent été une plus grande attention portée au texte, mais aussi une décontextualisation historique qui laisse les œuvres flotter librement hors de tout ancrage culturel, au point qu'elles deviennent pour les critiques le lieu de transformation imaginaire ou de simple prétexte pour étayer leurs préjugés. Ou encore, je pense qu'il est important de ne pas lire une œuvre de manière isolée. Cela donne trop de pouvoir au lecteur et les empêche de voir ce qu'il y a d'inattendu ou d'inacceptable dans ce que dit cette œuvre. La prise en compte de l'auteur, du contexte de production et d'énonciation d'une œuvre, n'a pas pour but, selon Todd, de corseter l'interprétation, mais de permettre une véritable rencontre, le cas échéant conflictuelle, de subjectivité. Et elle continue en ce qui me concerne. L'outil critique le plus utile demeure une notion de l'auteur individuel, sa personnalité aussi complexe et dispersée soit-elle, qui essaie de construire du sens à partir de sa propre expérience, de ses lectures et du moment historique où elle ou il vit, grâce à la manipulation et au développement de genres littéraires spécifiques. Cette orientation théorique, ce choix théorique de la part des critiques féministes, anglo-saxonnes en particulier, n'a souvent pas été bien perçue par la critique littéraire française. Et c'est ce que dit aussi Todd, toujours dans ce même entretien, en 42, le mépris des chercheuses françaises. Féru de théorie pour l'empirisme naïf des anglo-saxonnes était tel qu'il a été difficile d'imaginer des alliances entre ces deux cultures, hormis les cas où les anglo-américaines ont purement et simplement assimilé la French Theory. Un de mes souvenirs les plus gênants est d'avoir montré ma revue Women and Literature à Kristeva dans les années 70. Hein, il ne s'agit pas de la même Kristeva. Hein, il ne s'agit pas de la même époque qu'en 1970. Kristeva était complètement dans la mouvance narratologique et n'était pas encore dans les études féministes. Donc la réception aurait été peut-être différente quelques années plus tard. Mais à cette époque-là, la Kristeva narratologue. Hein. Donc un des souvenirs les plus gênants est d'avoir montré ma revue Women and Literature à Kristeva dans les années 70. Et de n'avoir réalisé l'absurdité de mon geste qu'après coup. Cet intérêt pour le personnel, pour la personne et par-delà pour l'individu semble être commun au discours critique et à une partie importante du discours littéraire féminin qui ne veut, qui ne peut et ne veut pas s'énoncer hors d'un point de vue situé très précisément le plus souvent dans l'individu féminin. Hein, et on revient à cette idée de point de vue situé. Et Todd, et je reprends une citation de Todd ici, « Ma génération qui, comme les écrivaines en général, s'est vue reprocher d'être trop portée sur le personnel et l'expérience. » La difficulté du dialogue avec les féministes peut s'expliquer par le fait qu'un grand nombre de celles-ci revendiquaient clairement un but, mais pas de cadre théorique spécifique, qui risquait à tout moment de faire disparaître non seulement le texte analysé, comme le disait Todd, mais leur subjectivité. Cette revendication d'un discours non formaté apparaît clairement dans un article de Toril Moy intitulé « Féministes fumées et les féminines » et qui date de 1989. Où elle dit, c'est ce que vous avez en 45, j'ai juste mis en 44 ce qu'elle entend par ces trois substantifs. Hein, féminisme, c'est la position politique. Femaleness, c'est la question, c'est le regard sur la nature biologique. Et fémininité, c'est l'ensemble des caractéristiques définies socioculturellement. Alors voici maintenant comment Toril Moy décrit une certaine pratique littéraire féministe qu'elle-même revendique. Et c'est ce que vous avez en 45, à nouveau, je vous propose une traduction en français. Elle s'efforce, donc les approches littéraires féministes, elle s'efforce de rendre explicite la politique soi-disant neutre et objective des travaux de leurs collègues, et essayent de fonctionner comme des critiques du champ culturel au sens le plus large du terme. À l'instar des socialistes, les féministes peuvent d'une certaine façon se permettre d'être éclectiques dans le choix de leurs théories et méthodes littéraires, dans la mesure où elles accueillent avec bienveillance toute approche qui leur permet d'atteindre leurs objectifs politiques. Alors si de nombreuses chercheuses féministes en littérature ont rejeté la narratologie, celle-ci, comme nous l'avons dit auparavant, n'a pas non plus accueilli avec grand enthousiasme les études de genre. Hein, et c'est ce que disait Todd notamment. au moment où les femmes demandaient ce que l'on procède à une lecture référentielle critique, on leur a opposé que ce type de lecture n'était malheureusement plus pertinente. Il y aurait ici de quoi s'interroger sur les malencontreux hasards de l'agenda scientifique. La narratologie n'était pas opposée aux féministes, mais à l'auteur ou l'autrice qui, malheureusement, constituait un des éléments clés de la réflexion féministe à cette époque-là. Nous avons là une bien curieuse coïncidence qu'il s'agirait d'approfondir, comme le demandait Michard et Ribéry, qui fait que l'on évacue l'auteur au moment même où les femmes apparaissent sur la scène sociale, politique, littéraire, en revendiquant une certaine subjectivité. Soulignons un autre point, à savoir, et nous l'avons déjà dit, que le champ narratologique est un champ éminemment masculin. L'absence de femmes demande à être interprétée. Elle peut s'inscrire dans l'ordre patriarcal traditionnel. Premièrement, les femmes tendent à être exclues des élites académiques. En France comme en Suisse, regardez le nombre de professeurs. Si on prend le statut de professeur, il y a nettement moins de femmes en France comme en Suisse, comme en Allemagne, à occuper ce type de position et à avoir accès à tout le champ des publications et de la reconnaissance institutionnelle. Première explication. Deuxième explication, les femmes ont peut-être plus de difficultés à se projeter, et c'est ce que laissait entendre certaines féministes américaines, à se projeter dans des approches plus formelles des champs scientistes et à s'enfermer dans des catégories binaires. Et troisième aspect, les femmes refusent de faire abstraction, ou certaines, quand je dis les femmes, c'est un certain nombre de femmes, refusent de faire abstraction de la subjectivité. Cette dernière hypothèse pourrait peut-être recevoir quelques confirmations dans le fait que l'on s'en trouve en revanche plus facilement des femmes dans des perspectives plus essentialisatives actuellement et conversationnalistes qui n'ont jamais, elles, fait l'économie de l'auteur du contexte. Et je pense notamment à des personnes comme Claire Blanche-Mavény, Jacqueline Autier-Revue ou Catherine Kerbrator-Ecchioni qui se sont orientées à certains moments donnés vers une prise en compte de l'énonciation plus forte. Susan Lanser est donc une des rares à s'être lancée frontalement et durablement dans l'articulation des études de genre et de la narratologie. Si dans les années 1980, cette option était particulièrement marginale, il me semble qu'aujourd'hui, la situation est plus propice à une véritable articulation entre les études de genre et la narratologie, et notamment cette narratologie contextualisante. Et je passe au point 6. La remise en question de la clôture du texte opérée par les féministes il y a longtemps reçoit maintenant un écho, notamment sous les auspices de l'histoire littéraire et de la sociologie de la littérature. La prise en compte du contexte va de pair avec un regain d'intérêt pour l'auteur, pour l'idéologie, etc. Une partie des narratologues se sont déjà partiellement convertis en s'orientant vers l'analyse des discours, voire vers l'analyse critique des discours. C'est le cas notamment de Théun van Dijk, qui est parti de la sémiotique grenadienne, et actuellement revendique une posture qui est celle de l'analyse critique des discours. Et voici ce qu'il dit. Et c'est ce que dans un article où il évoque sa bio-bibliographie, et que je cite sous 46, « La critical discourse analysis a pour objectif de redéfinir en premier lieu de façon très spécifique et précise ce que sont les idéologies, c'est-à-dire les systèmes socio-cognitifs, des représentations mentales socialement partagées qui contrôlent d'autres représentations mentales, quelles que les attitudes des groupes sociaux, y compris les préjugés et les modèles mentaux. » En second lieu, nous voulons chercher de façon systématique par quelle structure du discours, et on retrouve l'ancien fond structuraliste et narratologique, par quelle structure du discours, telles que les structures sémantiques, la syntaxe, le lexique, les actes de langage, etc., les opinions idéologiques se manifestent dans le texte et la parole. Alors, le tableau que vous avez en 47 dresse à grands traits cette évolution, vraiment à très très grands traits. J'ai mis à droite uniquement quelques noms, repères, enfin qui évoqueront peut-être quelque chose, on aurait pu en mettre d'autres à la place. Analyse de l'histoire, c'était chez Grémas, analyse de la narration en Agenette, analyse des discours, et non plus seulement du récit. On a des gens comme Adam et d'autres encore. Analyse critique du discours, cette fois, c'est l'option prise par Van Dijk ou par quelqu'un d'autre, comme la linguiste autrichienne Ruth Wodak, qui propose la définition suivante de l'analyse critique de discours, définition qui pourrait elle aussi s'articuler comme celle de Van Dijk, à mon avis, à la narratologie féministe. Voilà ce qu'elle dit, et là aussi je vous propose une traduction, mais vous avez le texte anglais sous les yeux en 48. L'analyse critique des discours envisage le discours, c'est-à-dire l'utilisation du langage dans sa forme orale comme écrite, comme une forme de pratique sociale. Décrire le discours comme une forme de pratique sociale implique une relation dialectique entre un événement discursif particulier et la situation, l'institution et la structure sociale qui la contraint. L'événement discursif est construit par les éléments aussi bien qu'il les construit. Le discours est conditionné par l'environnement social autant qu'il conditionne ce dernier. Il construit les situations, les objets, les connaissances, les identités sociales, les relations entre les gens et les groupes sociaux. Il est constituant dans les deux sens, d'une part dans la mesure où il contribue à maintenir et à reproduire le statu quo social, et d'autre part dans le sens où il contribue à le transformer. En gros, voici ce qu'on peut dire. On notera dans cette définition l'importance donnée au cadrage. Le discours, qu'il soit écrit ou oral, littéraire ou ordinaire, entretient des liens dialectiques avec la réalité extralinguistique. Il la configure et est configuré par elle. Wodak insiste en outre sur le rôle que joue le discours dans la construction des identités. Et là aussi, c'est une autre dimension essentielle du discours féministe, littéraire également, sur cette idée de construction des identités sociales, raciales, sexuées. En d'autres termes, le discours propose et parfois impose un point de vue sur le monde, sur la société, qui en retour influence également les discours. C'est cette relation de co-construction qui est au cœur de l'analyse des discours, dans la mesure où celle-ci s'intéresse tout particulièrement à la façon dont les discours contraints, enferment ou ouvrent les identités. Les discours véhiculent toujours et nécessairement un point de vue sur les personnes, point de vue qui contribue à construire leur identité. La tâche des analyses des discours est alors de repérer les vecteurs et les types d'identité et de les déconstruire. Ils poursuivent alors des objectifs très compatibles avec ceux des études littéraires de genre. En mettant l'accent sur la notion de cadrage, de format d'âge, on se rapproche d'une autre notion fondamentale en narratologie, celle du point de vue, notion essentielle pour Susan Lancer, qui la définit ainsi, et c'est ce que vous avez en 49. En dernière instance, la notion de point de vue rassemble les aspects de la structure narrative qui concernent le mode de présentation et de représentation de la parole et des perceptions et des événements. Les identités de ceux qui parlent et perçoivent, ou de celles qui parlent et perçoivent, là le français, la traduction française est plus compliquée, leur relation entre eux et, ou elles et avec le destinataire, leur attitude, situation, personnalité et croyance. On observera dans la citation de Lancer des éléments également présents de la citation de Wodak. Lancer met cependant fortement l'accent sur le lieu de perception, sur la personne qui organise les discours, qui les configure. Parmi les caractéristiques essentielles de l'instance énonciative se trouve, selon Lancer, le genre, c'est-à-dire le genre sexué. Elle dit « Ce que je considère comme l'un des éléments les plus fondamentaux du point de vue, le genre de l'instance narrative, les fondements de son autorité, sa personnalité, ses valeurs, la relation qui existe entre les circonstances de l'acte, d'écriture, les croyances et le type de structure narrative, toutes ces interrogations apparaissent comme périphériques dans les théories les plus contemporaines du point de vue. Hein? Et là, Lancer met en question le fait qu'on parle de point de vue sans jamais s'interroger sur une éventuelle sexuation du point de vue. Pour Susan Lancer et pour bon nombre de féministes, si le point de vue a été abondamment abordé, à travers notamment la notion de focalisation, interne, externe, zéro, enfin vous êtes dans la maison, où quelqu'un a longtemps travaillé sur ces notions-là, elle souligne le fait qu'on a une terminologie aussi d'origine physique, bien ces notions ont été abordées sur un mode trop technique ou trop exclusivement technique, trop désincarné, et pas suffisamment dans une perspective idéologique et genrée. Ce choix pourrait s'inscrire dans une perspective de grammaire de texte et non pas d'analyse du discours. Ce mouvement semble toutefois s'inverser si on en croit une certaine tendance qui consiste actuellement à remplacer la notion de focalisation par celle de point de vue. Notion que demandait aussi Susan Lancer, qui laisse à nouveau transparaître la prééminence de la dimension personnelle et idéologique. Ce qui devient alors essentiel, ce sont moins les caractéristiques techniques d'un procédé textuel que ce qu'il donne à comprendre de son instance d'énonciation et les effets qu'il induit sur les instances de réception. À juste titre, Susan S. Lancer s'interrogeait en 1981 déjà sur le point de vue qui anime les théories du point de vue. Et là, de nouveau, elle relaie une interrogation où elle, qui a été faite par Claire Michard et Claudine Ribéry, hein, c'est-à-dire de s'interroger sur ce qu'elle dit en 51 dans la formulation de Lenzer. What indeed was the point of view that structured the theories of point of view? C'est-à-dire, quel est au fond le point de vue qui guide, qui structure les théories du point de vue? Hein? Et je crois qu'il est impératif pour la narratologie de s'interroger sur ce qui l'anime en dernière instance. Apparemment, certains auteurs sont donc en train de modifier leur approche du point de vue pour le plus grand plaisir des personnes dont la formation, et je reprends un terme de Susan Lenzer, relève pour l'essentiel des approches formalistes, tandis que leur visée est profondément féministe. Hein, et c'est cette réflexion sur le point de vue que ma collègue Mireille Noël va poursuivre en travaillant cette fois sur des textes extrêmement précis.
Alors les textes sont là.